Avec le podcast de Traverser la frontière, prenez votre dose d'inspiration et d'évasion avec les incroyables histoires de Français qui ont décidé de quitter la France pour vivre à l'étranger. Si vous avez envie de voyager, changer de vie ou simplement d'ouvrir votre horizon, découvrez chaque semaine les parcours variés et les précieux conseils de nos invités pour enfin passer à l'action. Je vous laisse maintenant avec Michael pour ce nouvel épisode.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 3 du podcast de Traverser la frontière. Je voulais vous remercier encore une fois d'écouter cette nouvelle interview. Après le succès des deux premiers épisodes la semaine dernière, je suis plus que motivé pour continuer à vous raconter les parcours de tous ces Français qui ont décidé de vivre à l'étranger. Alors aujourd'hui l'invité s'appelle Christopher, donc il est un peu plus connu sur internet sous le nom de Callaghan. Donc Christopher est un nomade digital qui vit ses activités sur internet depuis 2011. Il est actuellement à Mexico, donc la capitale du Mexique. Il va nous raconter son parcours, comment il a commencé, comment il a développé son activité, comment il gère son activité, sa productivité, et il va nous parler bien sûr de tous ses projets en cours. Comme d'habitude, si vous voulez retrouver les liens de cette interview, il suffit d'aller sur l'URL traverserlafrontière.com/003. Allez, c'est parti pour l'interview avec Callaghan.
Allô, bonjour Mickaël.
Bonjour Callaghan, tu vas bien ?
Ça va très bien.
Tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté cette interview pour le podcast. Et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ?
Alors, merci aussi de m'avoir interviewé. C'est un exercice que je fais plutôt à l'écrit. Et là, on va le faire en audio, donc c'est un bon exercice. Alors, je me fais appeler Callaghan sur Internet. C'est un surnom, c'est un pseudonyme, c'est aussi le nom de mon blog, callaghan.fr. Et je me présente comme un nomade digital, donc c'est-à-dire une personne qui gère ses activités en ligne sur Internet, tout en voyageant, tout en les exerçant depuis l'étranger. Donc c'est un peu la ligne directrice de mon activité professionnelle depuis 2011, où j'ai commencé à gérer mes activités avec des clients sur Internet et avec différents sites Internet depuis le Kenya, depuis l'Afrique de l'Est lors d'un voyage pendant un mois, depuis l'Europe, depuis plusieurs endroits en France et là aujourd'hui en Amérique latine, notamment au Mexique.
D'accord, donc tu es au Mexique actuellement ?
Oui, à Mexico, à la capitale.
Ok. Et du coup, sur Callaghan, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton blog ? Quel type d'article, quel type de contenu tu mets en avant ?
Alors, quand j'ai lancé mon blog callaghan.fr, c'était dans un premier temps pour découvrir un peu le blog, pour découvrir un peu l'écriture. C'est un exercice que je ne connaissais pas à l'époque. Je voulais apprendre à écrire. Et c'était aussi pour publier des articles sur mes premiers voyages, notamment un article sur mon voyage au Cameroun, mon voyage un peu déclic. Et voilà, j'ai publié des articles pendant un an, deux ans. Et j'ai découvert sur le site de Corinne, une graphiste suisse, qui a un site qui s'appelle Vie Nomade. J'ai découvert un peu ce phénomène de nomade digital et je me suis rendu compte que ça commençait en France, mais qu'aussi aux États-Unis, il y avait une sorte de phénomène un peu social de travailleurs, de télétravailleurs sur Internet qui, grâce aux outils, aux nouvelles technologies et aux outils qui permettent de travailler en ligne, emmenaient leur entreprise avec eux. Ils allaient travailler à l'étranger, ils allaient travailler pendant leur voyage sur leur activité qui était 100% dématérialisée. Donc moi, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, il faut que je teste. J'ai envie de partir comme ça, quelques mois. Alors j'ai commencé en France. À partir pendant plusieurs mois, je suis parti à Angers chez une amie. Et j'ai continué à gérer mes activités de blogueur sur callaghan.fr. Mes activités de webmaster, où je travaillais avec différents clients en tant que webmaster pour faire du consulting, de l'accompagnement, de la création de sites internet, etc. Et j'avais aussi un ou deux autres sites où je générais des revenus récurrents, comme des revenus publicitaires avec AdSense, par exemple. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce mode de vie. Et voilà, j'ai voulu vraiment devenir géographiquement libre. Et c'est ce que j'ai réussi à faire depuis 2011, en gérant mes activités depuis l'étranger. Et
Ok.
j'ai développé de plus en plus mon blog sur cette ligne-là pour expliquer un peu mon expérience et pour donner des conseils aussi sur ce que j'ai appris, sur les erreurs que j'ai faites, sur les lectures que j'ai faites d'autres blogueurs qui veulent aussi exercer leur activité en ligne depuis l'étranger. Donc voilà.
D'accord, ça marche. Et du coup, avant de partir voyager et de vouloir monter ton activité sur Internet, tu as travaillé un petit peu en France, tu étais employé dans une entreprise, etc.
Alors j'ai un diplôme d'ingénieur e-service. Donc c'est les métiers liés au web, liés au e-commerce, liés au e-business, etc., au e-learning. Et j'ai travaillé pendant 9 mois dans une start-up qui s'appelle Music Story, qui est toujours d'actualité, une encyclopédie de la musique. Donc ça a été une expérience où j'ai beaucoup appris. J'ai lancé le site internet. Et bon, c'était pas un blog à l'époque, mais c'était sur le même principe. C'était des articles de contenu sur des artistes, sur des albums, sur des chroniques, etc. Donc j'ai travaillé 9 fois dans une start-up. Dans une start-up, tu bosses beaucoup. J'ai appris plein de trucs. C'était très formateur. Ensuite, j'ai travaillé dans une grosse entreprise pendant 1 an et demi, qui s'appelle Atos Worldline, qui est une grosse société d'informatique. Donc j'ai aussi appris beaucoup. Mais bon, je me suis rendu compte rapidement que c'était pas que je voulais pas faire carrière dans ce genre d'entreprise et que j'avais plutôt envie d'indépendance. J'avais commencé mes études d'informatique dans l'optique d'un jour de monter ma société et d'être indépendant. Et en 2011, j'ai donc créé une auto-entreprise après avoir fait un licenciement à l'amiable avec ma société, avec Atos Worldline, et j'ai commencé mes activités sur Internet en 2011. À
D'accord,
partir de ce moment-là, j'étais indépendant.
donc c'était plus de la une envie de changement, de lassitude par rapport à l'emploi que tu avais. Qu'est-ce qui t'a dit, ok, je veux vraiment ne pas travailler dans cet environnement-là et créer ma boîte?
Oh bah c'est pour plein de raisons. J'avais déjà, comme je te disais, j'avais déjà des envies d'indépendance professionnelle. Puis c'est aussi un côté routine, un côté métro boulot dodo hein, qui me plaisait plus. Et bah aussi, ça m'a permis de en travaillant 2 ans, enfin 9 mois dans une start-up, 1 an et demi dans une grande entreprise, ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté. Ça m'a ouvert des droits au chômage qui m'a bien aidé lors du lancement de mon activité. Et puis voilà, il y a un moment, tu te dis, c'est ce que j'ai envie de faire, il faut que je me lance, quoi, il faut que je le fasse vraiment. Même si tout le monde me disait, ah, c'est la crise, imagine que ça marche pas, tu vas pas retrouver de boulot, comment tu vas faire? Bon voilà, moi j'avais un diplôme, j'avais un peu d'expérience. J'avais de la volonté et je me suis dit, voilà, je prends le risque, même si ça marche pas, je rebondirai.
Ouais, je pense qu'en travaillant dans l'informatique, le risque était, même si ça marche pas, de retrouver un job par la suite, c'est pas, c'est assez, je vais pas dire facile, mais on va dire c'est plus aisé que sur certains secteurs en tout cas.
Ah, c'est aussi un avantage dans certains secteurs où on sait qu'il y a de l'emploi, où quand tu as un diplôme et quand tu as un peu d'expérience, tu peux te dire, bon, ouais. Mon objectif, c'était pas de me planter et de revenir bosser dans une grosse entreprise.
C'est sûr. Et du coup, donc quand tu as lancé ton auto-entreprise, quel type d'activité tu faisais?
Alors, quand j'ai lancé mon auto-entreprise, je travaillais déjà avec deux modèles. Et c'est un peu ce que je conseille aujourd'hui avec les blogueurs avec qui je travaille, les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est d'avoir un modèle où on travaille avec des clients, en tant que prestataire, un modèle de service, par exemple du développement web, par exemple de la rédaction, du référencement, du community management, et avoir un autre modèle qui dépend plus de sites internet, de publicité, qui dépend du trafic, et qui permet de générer, on va dire, des revenus un peu, on dit il y a des revenus récurrents ou des revenus automatiques. Donc quand je me suis lancé en auto-entrepreneur, je travaillais pour des projets de création web et j'avais d'autres petits sites internet qui généraient des revenus publicitaires. Et j'avais déjà l'idée de développer ces deux modèles, de développer mon blog Kanagan et un autre blog que j'ai créé en 2012 qui s'appelle Voyageur du Net avec un ami journaliste et de continuer à travailler pour des clients en tant que webmaster.
D'accord. D'ailleurs, au niveau journaliste, tu m'avais parlé d'une expérience que tu as eue au Guatemala, où tu avais travaillé en fait pour former des jeunes dans une sorte d'atelier journalisme. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu?
Alors, quand je suis rentré, j'ai commencé à faire mes voyages à emmener mon entreprise tout en voyageant en Afrique. J'ai fait plusieurs voyages, j'ai fait mon voyage au Cameroun, j'ai fait plusieurs voyages en Afrique de l'Est. Et je voulais, notamment avec un ami journaliste, Michael Faujour, on voulait voyager en Amérique latine. On avait un projet, on a monté un projet qui s'appelle toujours Atelier francophone de journalisme. On a proposé, avec une association, à des alliances françaises de faire des ateliers avec leurs élèves en français, en donnant des cours, on va dire, de web journalisme. Donc, Michael faisait la partie plus journaliste de presse et moi, je faisais la partie plus blog et utilisation de WordPress. Donc, on a contacté peut-être une cinquantaine d'alliances françaises dans toute l'Amérique latine et un Lillois d'ailleurs, parce que, je viens de Lille, un Lillois, Geoffrey Nanquette, qui était directeur de l'Alliance française de Quetzaltenango, la seconde ville du Guatemala, a répondu positivement à notre proposition. Et bah, du coup, on a pris notre billet d'avion pour Cancun. On a traversé pendant un mois le Yucatan et le nord du Guatemala et un peu le Belize. Et ensuite, on est arrivé en septembre 2012, mi-septembre 2012 à Quetzaltenango, quelques jours avant nos ateliers, et on a commencé une mission de 3 mois avec 2 classes. Donc, on avait une classe de 15 élèves, plutôt des adolescents, entre 13, 14, 17, 18 ans, où eh ben, on expliquait les bases du journalisme, on travaillait avec eux sur WordPress, je leur ai appris à utiliser WordPress, et on a travaillé sur des articles. Donc, on avait un sujet autour du tourisme alternatif, du tourisme équitable, du tourisme écologique au Guatemala. Et on travaillait avec une deuxième classe. Alors là, c'était des professeurs d'une université et professeurs de l'Alliance française, où on avait les mêmes missions, mais on travaillait à un niveau plus élevé parce qu'ils avaient un meilleur niveau de français. Donc c'est comme ça qu'a commencé mon voyage en Amérique latine.
Et du coup, cette mission-là que tu as faite dans l'Alliance française, tu étais rémunéré pour le faire ou c'était bénévole?
On était rémunéré en fonction du nombre d'élèves et en fonction du tarif que les élèves payent pour un abonnement c'était des abonnements de 2 mois, je crois, pour les cours. Donc en gros, on prenait un pourcentage de ce que l'Alliance française facturait aux élèves.
Ok, ça marche. Donc, tu as quand même trouvé un moyen de voyager et d'être rémunéré aussi en même temps par un autre moyen que ton activité sur le web. D'ailleurs, à propos de cette activité sur le web, comment tu as fait au début pour trouver des clients? Parce que tu me dis que tu fais du design, du développement sur Internet, mais est-ce que tu utilisais des plateformes d'intermédiation pour trouver des clients ou ils te contactaient directement? Comment ça se passait?
Alors, bonne question. Je crois qu'au début, j'ai trouvé mes clients avec le réseau que j'avais quand j'étais à Lille. Donc, j'avais pas vraiment de stratégie pour trouver des clients. C'était dans mes réseaux. C'était, j'avais aussi beaucoup d'amis qui avaient beaucoup d'amis qui travaillaient à Atos Worldline, certains qui y travaillent toujours, qui avaient aussi des envies, qui développaient aussi des petits sites internet, etc. Donc j'ai trouvé des clients via mes réseaux à l'époque. Et petit à petit, avec mon blog callaghan.fr, qui s'est fait un peu connaître dans le domaine de la blogosphère, la blogosphère du voyage, et ben j'ai commencé à avoir des relations avec des blogueurs. Et j'ai travaillé petit à petit pour des blogueurs voyage qui voulaient développer leur activité, qui voulaient changer leur site internet. J'ai notamment travaillé avec Fabrice Dubesset, Instinct Voyageur, avec qui je travaille toujours. Donc voilà, en fait, une partie de mes clients est venue de mon blog, parce qu'un blog sert aussi à présenter ses services, à présenter ses prestations, et à trouver des clients. C'est pour ça que quand je parle du modèle avec une partie de l'activité de prestation et une partie de l'activité de revenu récurrent, eh ben, ça justifie le fait qu'un blog, eh ben, on peut gérer, on peut faire de l'affiliation, on peut vendre des produits d'information, on peut vendre des liens. C'est plus recommandable, mais on peut toujours le faire. Et en plus, on peut proposer ses services. Donc on va dire il y a une double utilité. Donc c'est comme ça que j'ai c'est comme ça que qu'aujourd'hui hein, je trouve mes clients, c'est avec les réseaux que j'ai qui se sont fondés au début avec mon blog callaghan.fr.
Et du coup pas de plateforme pour les freelances type Codeur ou des choses comme ça?
Alors j'ai travaillé un peu sur codeur.com, mais je me suis aperçu, alors j'y suis toujours inscrit, de temps en temps je réponds à des annonces, mais petit à petit, j'ai voulu arrêter de travailler en mode ce que j'appelle le one shot, de travailler avec un client qui a besoin de quelque chose. Là, pendant un mois, je travaille avec lui et après on arrête de travailler ensemble. Parce que ça, c'est des complications et... Eh ben, ça apporte pas tant que ça, ça m'apporte pas tant que ça pour moi et pour mon client. Donc, je suis plutôt dans une démarche de travailler avec un client et de l'accompagner pendant plusieurs mois pour vraiment qu'on obtienne des résultats. Qu'on discute et qu'on fixe les choses les plus importantes à mettre en place pour augmenter le trafic, pour augmenter les revenus, etc. Et qu'on les mette en place, et on peut pas mettre ça en place en un mois ou en deux mois, c'est quelque chose qui prend plus de temps. Donc plutôt qu'aujourd'hui faire des prestations brèves pour des clients, j'accompagne plutôt des clients sur plusieurs mois, sur 6 mois, voire plus.
Ok, ça marche. Et du coup, la problématique de gestion des clients, parce que tu es à l'étranger, tu voyages beaucoup, et tes clients sont principalement peut-être en France ou à l'étranger, mais comment tu fais pour gérer tout ça et leur expliquer le fait que tu ne sois pas présent physiquement avec eux?
Alors, il y a un premier avantage, c'est que si mes clients me contactent via callaghan.fr ou via le réseau, eh ben, ils savent très bien, quoi. Quand ils m'appellent, quand j'ai un premier rendez-vous avec eux, par Skype, bah, ils savent que je suis au Mexique, ils savent que je suis nomade digital. Donc, en général, j'ai pas de problème avec ça. Là où ça peut poser un problème, j'en discutais avec Aïdé de Travel Plugin récemment, c'est que c'est aussi quelque chose que disait Aurélien Macker, c'est que quand on est nomade, c'est difficile de travailler avec des grosses entreprises ou des moyennes entreprises sur des gros projets avec des gros budgets. Une entreprise qui va avoir un projet, par exemple, à 10 000 euros sur un site internet, eh ben, elle va forcément vouloir, si elle travaille avec un indépendant, comme ça, elle n'a pas besoin de gérer ça en externe, elle sous-traite, elle va forcément vouloir que la personne soit là, qu'elle se présente, qu'il y a ce côté, la présence qui inspire la confiance aussi. Parce que, voilà, sinon, ils vont dire, c'est qui ce Callaghan au Mexique, là? Nous, on a envie de le voir pour durer, quoi. Donc, du coup, en général, les nomades digitaux, ils travaillent plutôt avec des petits entrepreneurs qui ont l'esprit un peu moins corporate, qui sont un peu plus ouverts, en se disant, bah voilà, on a pas peur de travailler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Ils ont plus de flexibilité que des grosses ou moyennes entreprises qui ont des plus gros budgets, qui travaillent sur des plus gros projets, mais du coup, qui vont préférer travailler avec des agences ou des indépendants qui sont présents sur place.
D'accord, ok, ouais, c'est compréhensible effectivement que les grosses boîtes n'ont pas forcément envie de travailler avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et qui ont fait des Skype conférences, hein, ça paraît
Voilà,
compliqué.
c'est vraiment le côté présence, le côté on veut vraiment voir la personne et faire les schémas l'un à côté de l'autre, avoir un contact direct qui est quand même plus pratique pour travailler sur des plus gros projets.
Ok. Et comment, ce que j'ai vu que sur Kaggan, tu parlais beaucoup aussi de productivité, d'efficacité, quand on est digital nomade. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton schéma d'organisation, comment tu travailles, comment tu organises tes journées ou tes semaines?
Alors ça, c'est quelque chose, je m'y suis intéressé très rapidement à l'organisation, à la productivité, à l'efficacité. Et j'ai testé plein de choses, j'ai réfléchi à plein de choses, j'ai étudié, j'ai lu beaucoup. Et alors, aujourd'hui, voilà, j'optimise toujours. Je pense que il n'y a pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Mais le modèle qui fonctionne pour tout le monde, c'est de travailler son modèle régulièrement. C'est tous les mois, tous les 2 mois, de se dire, bon, bah, ça c'est bien, je dois continuer à le faire, ça il faut que j'arrête, etc. Donc il faut tout le temps l'optimiser. Alors, je commence mes journées par ouvrir mon agenda. Et dans mon agenda, j'ai mes tâches les plus importantes dans la semaine. C'est-à-dire que je travaille avec un planning hebdomadaire. Ou une liste récurrente, il y en a qui appellent ça des listes récurrentes. J'ai une liste de tâches que je fais toutes les semaines. Par exemple, le lundi, j'écris toujours un article pour mon blog. Le mardi, je travaille avec mes clients. Le vendredi, je travaille également avec mes clients. Et donc, j'ai un modèle comme ça. Et à chaque début de journée, je sais par quoi je dois commencer. Donc, souvent des tâches importantes, par exemple écrire un article ou travailler 4 heures pour tel client. Donc ça, c'est important. C'est de commencer vraiment sa journée par ce qui importe le plus, quoi. Donc ce qu'on a mis dans sa semaine d'organisation, c'est en général, on met les tâches vraiment importantes qui sont indispensables et on met les tâches qui rapportent du chiffre d'affaires, à notamment travailler une demi-journée pour un client, par exemple. Après, il y a certaines parties du travail sur Internet qui peuvent vraiment être chronophages. Alors, il y a notamment la gestion des emails. Moi, c'est les 2 points que je travaille avec mes partenaires que j'explique. C'est là-dessus qu'on peut gagner plus de temps, c'est la gestion des emails et les réseaux sociaux. Donc, gérer les emails, bah, il faut. J'ai 2 façons d'aller sur mes emails. Donc, des fois, en milieu de journée, vers 11 h par exemple, je vais ouvrir mes emails pour aller voir s'il n'y a pas des urgences, s'il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie un truc important. Donc je fais un premier passage et c'est tout, ça me prend 5 minutes maximum. Et en fin de journée, là je vais traiter mes emails complètement. J'ouvre l'email, je le lis, je le traite, je réponds, hop, je passe au suivant. Et voilà, donc ça fait 2 passages sur la boîte email par jour, pardon. Je sais que certains entrepreneurs, quand je leur envoie un email, 5 minutes plus tard, ils me répondent. Et qu'ils sont connectés tout le temps à leur adresse email. Et que, bon, voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, on parle du travail multitâche, mais c'est une tâche supplémentaire. Alors que si on en travaille sur la rédaction d'un article, bah, il ne faut pas aller ouvrir ses emails régulièrement. Et pour les réseaux sociaux, donc le deuxième point qui, pour moi, permet de gagner le plus de temps, c'est bah, les réseaux sociaux. J'y vais à peu près 20 minutes, une demi-heure, tous les mardis. Donc aujourd'hui, j'ai été sur mes réseaux sociaux pour répondre aux messages, pour sponsoriser un de mes posts, pour aller faire quelques opérations. Et c'est tout. Pendant les 6 jours restants de la semaine, j'y vais pas. Donc voilà, c'est les 2 points Les plus importants, alors ouais, s'il y a trois points importants, c'est un, avoir un système d'organisation hebdomadaire, en sachant chaque jour qu'est-ce qu'on doit faire. Deux, bah, bien savoir gérer ses emails en deux étapes. La première, on regarde les choses importantes, les urgences en début de journée, et en fin de journée, on traite vraiment les emails, on y répond tous. Et troisième point, eh ben, avoir une organisation sur les réseaux sociaux. Alors, c'est selon les activités. Moi, j'y passe 20 minutes. Vous pouvez peut-être y passer 2 fois 30 minutes dans la semaine ou 3 fois 30 minutes. Mais savoir à quel moment on y va et le gérer vraiment. Pas, je suis en train d'écrire un article. Tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur Facebook. Non, il ne faut pas faire ça parce que c'est vraiment une perte d'organisation et de productivité sur l'année entière.
Ok, non, ça c'est des excellents conseils. Même moi qui essaye de suivre ce type d'organisation au maximum, c'est vrai que j'ai souvent ma boîte email qui est ouverte, souvent Facebook qui est ouvert. C'est vrai que on a tendance à se disperser très rapidement. Hein.
Ça peut prendre du temps hein, de changer ces habitudes-là. Pour moi, c'est vraiment des addictions qui sont, c'est quasiment des addictions psychologiques, quoi. On a envie d'aller voir si on n'a pas des bonnes nouvelles sur notre compte email. Et puis quand on y va, bon voilà, y a pas de message, donc on revient à notre activité. Ça peut prendre du temps. C'est vrai, ça peut prendre du temps de changer ses habitudes là-dessus. C'est
Ouais,
important.
c'est sûr. Quel conseil tu aurais pour pour des gens en fait qui ont des compétences, on va dire, en développement web ou en design, ce genre de compétences en gros qu'on peut faire un petit peu de n'importe où, et que ces gens-là ont envie peut-être qu'ils travaillent dans une entreprise comme tu l'as fait, ou qu'ont vraiment envie d'aller voyager ou de monter leur boîte. Quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent se lancer et pas se planter rapidement?
Je pense que le meilleur conseil que je peux donner à une personne qui veut devenir géographiquement libre, eh ben, c'est de tester. C'est de tester. De dire, je pars par exemple un mois. Je pars un mois à un endroit où je sais que je pourrais à la fois travailler, à la fois ben, voilà, profiter des. Là, je suis à Mexico. Bon, voilà, chaque semaine, je vais faire des petites sorties. J'ai été à Oaxaca, j'ai visité beaucoup la côte, j'ai visité beaucoup le Yucatan. Régulièrement, je vais au Guatemala. Bon, je bouge beaucoup, tout en gérant mes activités. Donc, il faut gérer ce truc-là. Il faut savoir à quel moment je travaille et savoir à quel moment, eh ben, je profite d'être à l'étranger. Donc, faire un test. Faire un test d'un mois. Par exemple, on part un mois, on part un mois en Thaïlande, par exemple, un mois à Bangkok. On se dit pendant 2 semaines, je loue un appartement à Bangkok, par exemple avec Airbnb. Pendant 2 semaines, je vais voyager un peu en Thaïlande. Et je reviens en France et je me dis, bon voilà, est-ce que mes activités, ça a été, qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai pas fait bien? Et ensuite, on se dit, bon voilà, j'ai à peu près géré mon truc, maintenant je peux partir 3 mois, par exemple, en Amérique latine. Donc voilà, je pense que le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de tester pour avoir une organisation et un mode de travail bah, qui s'adapte bien à cette mobilité.
Ok, bon, je pense que c'est un conseil précieux. Effectivement, faut y aller petit à petit, essayer des choses, voir ce qui marche pas. Non, t'as tout à fait raison là-dessus. Je pense que il faut tester, tester, tester.
Non, il faut avoir, comment dire, il faut avoir quand même une vision de cette liberté géographique qui ne doit pas être trop. On imagine un peu le nomade, les pieds dans le sable, au soleil, qui fait rien. Bon. Si on est indépendant et qu'on gère son entreprise, eh ben, on a des responsabilités. Comment dire, il faut savoir les gérer tout en étant géographiquement libre. Donc il faut faire ça consciemment. Et de tester un mode de vie comme ça pendant quelques semaines, plusieurs mois, eh ben c'est vrai, voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense.
Tout à fait raison. Du coup, j'ai vu qu'il y a en octobre 2014, là il y a un mois, au moment où on enregistre l'émission, tu as lancé une nouvelle version de ton site Karagan.fr. Très jolie version d'ailleurs. Je voulais savoir du coup pourquoi tu as fait une version de ton site et quels étaient un petit peu tes projets et comment tu voyais le futur. Hein.
Alors, si j'ai refait. Bah, déjà, j'avais un blog qui avait un côté amateur et je voulais refaire sortir dans la nouvelle version de mon site. Voilà, que j'étais un webmaster, que j'avais des compétences sur WordPress et pour mettre en place un tas de fonctionnalités sur un blog. Donc, je voulais un peu que voilà, qu'Alagan soit une vitrine du travail que j'avais fait pour mes clients pendant un an ou deux et que j'avais pas eu le temps de faire vraiment pour Callaghan.fr. Donc ça, c'était un premier point. Un second point, bah, je voulais quand même relancer un peu mon site, avoir une nouvelle ligne éditoriale qui est plus une ligne qui aide les entrepreneurs à et ben bah, changer un peu de vie, à changer de pays. Et tout en voyageant et emmener leur entreprise avec eux. Et le troisième point, c'est que je suis en train de travailler sur une formation, justement pour aider des entrepreneurs à devenir géographiquement libres. Donc, du coup, voilà, mon site a changé de ligne éditoriale, il a changé un peu de. Il est passé d'amateur à professionnel, plus professionnel. Donc voilà, il fallait que. Et puis j'avais envie aussi. J'avais aussi envie. Mon entreprise a passé sa troisième année. Et je voulais, voilà, pour les 3 ans, pour les 5 ans, parce que mon blog, j'avais commencé en 2009. Je voulais, voilà, changer un peu le design. On dit souvent qu'il faut changer tous les 3 ans. Bon, bah là, ça faisait 5 ans, alors maintenant, c'est fait.
Non, mais il est très bien réussi en tout cas le nouveau design. Du coup, on arrive à la fin de l'interview, mais je voulais te demander, toi qui es maintenant du coup un grand spécialiste du Mexique et peut-être de l'Amérique centrale en général, quel serait un petit peu en termes de voyage pur ton top, je sais pas, ton top 3 par exemple des destinations à faire ou bien des expériences à vivre dans cette région du monde?
Alors, j'ai un peu vadrouillé au Mexique, sur la côte Pacifique, dans la région du Yucatan, dans le Chiapas, dans la région de Oaxaca, dans le centre, la capitale, et depuis quelques mois autour de la capitale. Ah ben, si vous venez au Mexique, allez au Yucatan, parce que c'est une destination où il fait beau. Où il y a tous les avantages, on va dire, culturels, gastronomiques du Mexique. Il y a la plage, les plages sont très belles, c'est les Caraïbes. Et alors, il y a des spots comme Cancun ou Playa del Carmen, qui sont un peu touristiques, qui sont un peu, on va dire, un touriste un peu américain. Playa del Carmen, c'est plus européen. Et il y a aussi plein de petits. Alors, c'est les Pueblos Mágicos, c'est les villages magiques. Donc, c'est un programme du ministère du Tourisme du Mexique qui met en avant, qui communique un peu sur des petits villages qui ont un certain charme. Par exemple, Valladolid ou par exemple Bacalar, qui sont des villages où on peut trouver des cénotes. Un cénote, c'est une formation géologique, c'est une sorte de lac souterrain d'eau douce unique qu'on retrouve que dans cette partie du monde. Donc, si vous voyagez au Mexique, allez au Yucatan. Alors, bien sûr, je vais vous aussi proposer, vous inviter à venir à la capitale, qui est, même si considérée comme la seconde ville du monde, c'est une ville qui bouge beaucoup. C'est une ville où il y a beaucoup de quartiers qui sont vraiment différents, avec des ambiances différentes. C'est une ville qui reste encore, par maint aspect, très populaire. Et alors, quand on voyage dans une grande ville comme ça, c'est bien de connaître des gens sur place, c'est bien de connaître des locaux. Ça va être plus facile pour ne pas se perdre, pour avoir des activités, pour aller dans certaines fêtes, pour découvrir les endroits qui sont plutôt. Où les Mexicains vont, plutôt éviter des trucs très très touristiques. Donc voilà, ça sera la deuxième destination. La troisième, au Guatemala, moi j'ai baroudé pas mal au Guatemala, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyageurs qui aiment des voyageurs un peu anciens, en backpackers, qui aiment beaucoup cette destination parce que c'est très route. C'est aussi une des destinations les moins chères de la région. Et bon, voilà, il y a des plages, et on peut faire beaucoup de trekking, surtout dans le nord, dans l'ouest du pays. On peut aller au lac Atitlan. À l'Antigua, qui est une ville très connue aussi dans le monde latin. Et voilà, le Guatemala, y aller avec le sac à dos en prenant les chicken bus. C'est des bus très colorés où on est vraiment écrasé, qui sont assez dangereux en fait. C'est chouette, le Guatemala, tous les voyageurs que je connais qui ont voyagé au Guatemala, ça a été un très bon souvenir, ils ont vraiment adoré. Donc voilà, c'est le top 3 des destinations du coin. Le Yucatan, la capitale, DFL, le District fédéral, et le Guatemala.
Ok, parfait. Moi qui suis jamais allé là-bas, du coup, je saurais où aller pour la prochaine fois. Ok, bah merci beaucoup, Karigan, pour cette interview. Et j'invite nous tous les gens qui ont bien aimé ton histoire à aller sur ton blog et puis pour en savoir un petit peu plus.
Ok, je te remercie beaucoup, Michael, et encore une fois, un bon exercice, ce podcast. Et ben, écoute, je te souhaite aussi des bons voyages en Asie, hein, à Bali.
Merci. Merci, à bientôt.
À bientôt. Ciao.
L'interview avec Callaghan est maintenant finie. J'espère que vous avez pu apprendre des nouvelles choses sur le monde des nomades digitales. Et bien sûr, la façon dont on peut organiser un business ou une entreprise en vivant à l'étranger. En tous les cas, les liens qu'on a évoqués dans l'interview se retrouvent sur la page traverserlafrontière.com/003. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!